Soyez les bienvenus à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, nous pouvons lire. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque et l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà ce texte bien connu depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. S'agissait-il d'astrologues ? Nul ne le sait. D'où venait-il ? De l'Orient, se limite à dire Matthieu, c'est-à-dire d'assez loin. Combien était-il ? Vous avez tous la réponse, mais nul ne le sait non plus. Mystère. Le nombre 3 fut adopté bien plus tard. La tradition ira même jusqu'à les nommer. Gaspard, Melchior, Balthazar, elle les consacrera roi à l'appui de prophéties. Ce matin, j'aimerais vous proposer une triple lecture de ce récit, car je suis persuadé que quelle que soit l'assemblée qui compose une église qui écoute ce texte, on peut recevoir ce message à plusieurs niveaux. Une lecture historique, d'abord, une lecture théologique, et puis une troisième lecture que je ne sais pas très bien comment qualifier, une lecture, disons, interrogative ou personnelle. Et je commence avec une question. Est-ce que vous savez quel est le bâtiment le plus visité d'Allemagne ? C'est une vraie question, vous pouvez... Il n'y a pas de piège. Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est la cathédrale de Cologne, de loin, et depuis le Moyen-Âge. Après la défaite et la démolition de Milan en 1162, sous les ordres de Frédéric Barberousse, les restes des rois mages qui se trouvaient à Milan Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du chemin des reliques, mais ils étaient à Milan à cette époque-là. Vont être confiés à l'archevêque de Cologne, Reinhard von Dassel. J'aime bien de temps en temps vous proposer des prénoms hein, pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Reinhard, pensez-y. Reinhard von Dassel est très fier, comme archevêque de Cologne, de rentrer avec les corps dont on dit, on a des sources très précises, qu'ils avaient été épargnés par les incendies et les mises à sac. Et on les avait retrouvés à l'âge où ils étaient décédés, c'est-à-dire aux trois âges de la vie, 20 ans, 40 ans et 60 ans, pour montrer que non seulement les rois mages symbolisaient l'universalité, mais aussi la totalité de l'être humain. Et depuis, ils n'ont pas bougé. Ils sont à Cologne, dans une châsse, c'est le terme, exposée dans le cœur de la cathédrale, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter. Et dans toute la suite du Moyen-Âge, cette cathédrale deviendra un lieu de pèlerinage, le plus important après Rome. À tel point qu'on appellera les rois mages pendant très longtemps les rois de Cologne. On va à Cologne pour observer cette châsse magnifique en or et pour espérer que la vue de cette châsse aura des effets bénéfiques sur nos vies. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine qui résume les croyances de l'époque. Ce furent les premières translations de reliques dans la direction de l'Occident qui vont continuer après avec les croisades. Ça, c'est une lecture historique pour montrer que les textes bibliques ont eu un impact dans nos vies. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça magnifique ou ridicule, l'histoire a été un réceptacle de la foi, parfois jusqu'à influencer de manière assez radicale la vie des contemporains. On pourrait se contenter de cette lecture-là et voir dans les textes bibliques ce qui a eu une répercussion dans notre vie quotidienne. On peut aller un peu plus loin, pour ceux qui sont d'accord, et ceux qui pensent que le texte biblique propose plus que simplement un éclairage sur la vie d'aujourd'hui ou la vie d'une autre époque. Dans un passage de l'Exode, au chapitre 30, Yahvé précise à Moïse la composition du mélange qu'il faut faire brûler en parlant de l'encens. Et il donne la recette. Vous pourrez aller voir si vous ne savez pas trop quoi faire cet après-midi. Vous allez voir au chapitre 30, c'est un chapitre intéressant. Et vous saurez faire, après avoir fait des Weihnachtsplätzchen, des Brädele, vous pourrez faire de l'encens. Il donne aussi la recette de l'huile, l'huile d'onction, pas n'importe quelle huile. L'huile d'onction qui va servir à sanctifier certains objets du culte israélite. Et on voit que déjà la myrrhe et l'encens font partie du quotidien du culte israélite. Deux des cadeaux qui sont faits à Jésus sont des cadeaux liturgiques. Et le troisième, l'or, a une signification assez simple. L'or, c'est la richesse, c'est la rareté, c'est la préciosité, c'est le cadeau royal. Un roi paradoxal, un roi qui vient se révéler à nous dans la faiblesse, alors que nous attendons un chef qui montre le cap, quitte pour cela à nous le construire nous-mêmes ou à le désigner. Trois cadeaux de l'encens, parce qu'il est reconnu comme Dieu. L'encens était lié au culte, il est d'ailleurs encore dans certaines traditions, pas tellement au bouclier, c'est vrai, on n'a pas tellement d'encens ici, on pourrait se mettre à faire monter de l'encens. L'encens, c'est symboliquement ce qui remplace... Non, on me fait non de la tête, d'accord. L'encens, c'est ce qui remplace symboliquement le sacrifice. Vous savez que l'Holocauste, le fait de tout faire brûler, que ce soit végétal ou animal, devait monter vers le ciel pour plaire à Dieu. Et après le remplacement du temple qui a été détruit par des synagogues, eh bien, on va arrêter les holocaustes, et l'encens symbolise ça. Encore aujourd'hui, je le disais, dans les traditions chrétiennes. La myrrhe, après l'encens qui symbolise le côté divin de Jésus, la myrrhe symbolise le côté humain. La myrrhe était un onguent. Un onguent, c'est un mot un peu compliqué pour parfum. À chaque fois que je vois Pierre qui fronce les sourcils, elle a une odeur un peu amère. Une odeur un peu amère parce qu'elle symbolise en fait la finitude de l'homme. C'est-à-dire qu'au moment où une personne mourait, il était d'usage de l'embaumer avec un onguent, et cet onguent était de la myrrhe. L'encens offert à un Dieu immortel et parfait, à côté de la myrrhe offerte à un homme mortel, dont elle souligne la finitude, que Dieu assume. En venant à notre rencontre en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus, un homme. Et la mortalité, une mortalité qui est symbolisée aussi par le fait que les soldats, au moment de la Passion, vont proposer à Jésus du vin mélangé à de la myrrhe, et il la refusera. Ça, c'est une lecture théologique. On peut voir dans le texte biblique des symboles, une actualité liturgique qui, dans beaucoup de traditions chrétiennes, est toujours d'actualité. Et puis une lecture un peu plus, je dirais, interrogative ou personnelle, à travers la question, d'accord, tout ça c'est très bien, mais et alors ? Là je me tourne vers Vincent quand je dis ça, parce que c'est, et alors ? Bon, ok, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? J'ai de la myrrhe, j'ai de l'encens, j'ai de l'or, ouais, pourquoi pas, tant mieux. Dans l'église arménienne, à l'occasion de l'épiphanie, les fidèles se saluent en s'adressant cette parole les uns aux autres. Christ est né et s'est manifesté. À quoi l'on répond, pour vous et pour nous, grande nouvelle. Une manière de montrer que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas simplement au Moyen-Âge, c'est pas simplement l'Ancien Testament, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'épiphanie ? Une manière de dire qu'indépendamment de la signification des cadeaux ou de la réception historique, l'important se situe ailleurs. Non pas que les deux premières lectures soient caduques, et je pense que nous ne pouvons pas en faire l'économie, sinon on passe à côté du sens du texte. Pourtant, le sens du texte se situe aussi ailleurs, dans la manière dont je le reçois aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un autre sens à l'épiphanie que l'appel au pèlerinage à Cologne pour aller voir cette magnifique chasse de 300 kilos d'or massif, et un autre sens que le rappel symbolique des trois cadeaux? Je propose deux pistes pour ce matin. La première, c'est l'idée que nous pouvons changer notre regard sur nous-mêmes, sur les choses et sur Jésus-Christ grâce aux étrangers. Paradoxalement, les personnes qui vont venir se prosterner devant le Christ, le reconnaître, confesser la foi de manière aussi spectaculaire, ce sont les étrangers. Au moment où cette reconnaissance a lieu dans notre évangile, Jésus est tout petit, c'est un bébé, et ceux qui les premiers vont voir dans cet enfant le Messie attendu, sont clairvoyants. Et pourtant, ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas ceux qui attendent le Messie et qui annoncent en permanence qu'ils attendent le Messie. Ce sont des mages, c'est-à-dire, en fait, des gens un peu suspects, qui viennent d'Orient, c'est-à-dire des gens qui viennent d'on ne sait pas très où. Et ils parviennent à le reconnaître à travers leur propre culture, à travers leur propre science, à travers des codes qui échappent à ceux qui sont leurs contemporains. Leur culture n'est pas celle du peuple juif, et pourtant, c'est eux qui les premiers reconnaissent Jésus. Et je vois à travers cette image l'idée qu'on peut se laisser, et même qu'on doit se laisser interpeller, par ceux qui, a priori, ne sont pas les plus légitimes. Ceux qui, a priori, ne sont pas en mesure d'enseigner, d'apporter, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire. L'idée que le plus petit, le plus humble, le plus bizarre peut tout à coup nous faire prendre conscience de ce sur quoi nous étions passés beaucoup trop rapidement. Ça, c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui. Dès que j'allume la radio ou que j'ouvre un journal et que je vois comment on traite l'étranger, quand je lis ce texte, je me rends compte que l'étranger m'apporte ce que je n'avais pas vu. Et la deuxième piste pour ce matin serait plutôt une question toute simple. Quelle est votre étoile ? Les mages sont venus au Christ en suivant une étoile. Ils croyaient aux signes. C'est pour ça qu'on en a fait des astrologues. Ils ont trouvé, à leur époque, les instruments qui leur ont fait prendre la route, arriver à destination, faire un chemin, aboutir pour confesser. Ils auraient pu trouver d'autres méthodes. C'est celle-là qu'ils ont choisie. Ce texte ne nous dit pas qu'il faut lever les yeux au ciel et trouver une étoile à notre tour. Mais il peut nous poser la question de savoir, aujourd'hui, quel est pour nous ce qui fait office d'étoile. Au Moyen-Âge, on a proposé aux gens cette chasse, dont je parlais tout à l'heure avec un tout petit soupçon d'ironie dans la voix, mais c'était tout ce qui leur était proposé. Et c'est pour ça qu'ils venaient en foule, en masse, pour l'observer, parce que ça les rattachait, ça permettait pour eux de mettre des mots, une image, quelque chose de concret sur leur espérance, sur leur foi. Et vous savez combien la Réforme a œuvré, a combattu ces reliques en disant que ce n'était pas la bonne manière de témoigner de la foi, parce que ça pouvait mener à de la superstition. Ce combat a été mené au nom de la foi, mais la question qu'on nous pose alors est qu'est-ce qui reste de concret ? Par quel média peut-on venir au Christ ? Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous êtes capable, aujourd'hui, maintenant, d'identifier ce qui est votre étoile, c'est-à-dire ce qui vous fait arriver à Bethléem, ce qui vous fait vous prosterner devant un bébé, ce qui vous fait confesser, celui-là est le Christ. Je rêverais qu'on puisse faire une liste de toutes vos étoiles et qu'on puisse faire une banderole pour l'afficher. Et on dirait, tout à l'heure Catherine disait que vous êtes tous des lumières, ce qui était un beau compliment. On pourrait montrer que les lumières que nous sommes sommes éclairées par cette étoile. Aujourd'hui, je vous laisse avec ces trois lectures, cette lecture historique, cette lecture théologique, et surtout, parce que c'est ce qui me semble le plus important, cette question. Qu'est-ce qui est votre étoile ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez partager ? Parce que si les mages ne sont pas venus seuls, c'est certainement qu'ils se sont rendus compte que le voyage valait la peine d'être fait à plusieurs, et que ce qu'ils allaient découvrir au terme de ce voyage méritait d'être partagé. Je vous souhaite donc aujourd'hui, tout simplement, d'arriver à mettre un mot, un concept, un visage, une phrase, un cadeau sur cette étoile. Que vous ne la perdiez pas de vue et qu'elle soit capable, en tout temps, de vous amener à Christ. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous donne grâce et paix.